Bienvenue dans Les Centres Passagers, une émission de Virgile Fraisse, montée par Arnaud Ledoux, mixée par Valentin Fleury, en coproduction avec la radio DU. Nous vous proposons d'écouter le portrait de centres d'art contemporain français, mis en difficulté ou ayant disparu. Les Centres Passagers se veut être la mémoire de ces espaces temporaires, d'histoire d'art, de projets poétiques, radicaux ou engagés. Pour cette première saison, 4 centres d'art, 4 épisodes, une ancienne usine d'embouteillage, une église désacralisée, une ex-caserne militaire et une ancienne chaudronnerie. Dans cet épisode, une ancienne caserne militaire au cœur de Quimper, les vestiges d'un centre d'art ouvert de 1990 à 2016. Nous écoutons aujourd'hui les paroles de trois anciens acteurs de ce lieu de culture, Marie Von Bagot, Jean-Yves Crochemort et Natalia Colina. Écoutez aujourd'hui Le Quartier.
Je travaillais à la direction culturelle de la ville de Quimper et j'étais détachée à ce moment-là au Musée des Beaux-Arts. Et Michel, en tant que directeur de l'École des Beaux-Arts, avait commencé à présenter un certain nombre d'expositions d'artistes vivants et qui nous a tous complètement engagés, mobilisés. Enfin, moi, je n'ai pas découvert l'art vivant à ce moment-là, je n'ai pas découvert l'art moderne non plus à ce moment-là, mais il y avait une telle énergie dégagée par ce monsieur qu'on a suivi ça de très près pendant un certain nombre d'années. À un moment donné, il dirigeait donc l'École des Beaux-Arts, qui était dans des locaux extrêmement vétustes, rue du Chapeau-Rouge, qui est une vieille rue de Quimper. Il y avait une caserne, les militaires en sont partis. Et Michel a décidé avec ses étudiants de squatter les locaux de l'ancienne caserne militaire. Ça a pris quelques temps, quelques mois, pour que la négociation se fasse entre le ministère des Armées, l'État et la ville de Quimper, pour que les locaux soient vraiment récupérés par la ville pour en faire quelque chose. Mais lui, étant quelqu'un de très, très tonique et très, très réactif, si vous voulez, avait déjà commencé à occuper les lieux. Voilà. Et donc, moi, je regardais les choses se faire comme ça, bien avancer. Je me disais, ce serait quand même très bien si la municipalité de l'époque engageait de l'énergie sur un projet comme celui-là. Et je crois que... Alors, je vais peut-être parler plus de lui que de moi, parce que c'est quand même lui qui est à l'origine, Michel Pagnot, de cette création du Centre d'art. Et un grand merci à lui, effectivement, d'avoir fait ça, ce qui nous a permis de travailler pendant, enfin, en tout cas pour moi, plus d'une dizaine d'années sur le lieu. Mais en 88, il a rencontré une personne qui était un industriel du coin, etc., intéressé aussi par l'art moderne. Il a réussi à le convaincre qu'on pouvait éventuellement créer, sur le rez-de-chaussée de cette école-là, de créer un lieu d'exposition qui était à l'époque pas du tout un centre d'art, qui était juste une galerie. Alors, est-ce que c'était une galerie d'école? Est-ce que c'était, etc. Bon. Et à eux deux, ils ont convaincu le maire de l'époque, qui s'appelait Marc Beckham, de créer au rez-de-chaussée des salles qui permettraient d'accueillir des œuvres d'art, des œuvres en tout cas d'artistes vivants, etc. Et la finesse de son projet, à Michel, l'intelligence de ce projet, c'était effectivement de faire le lien entre l'École des Beaux-Arts, à qui il voulait donner une dimension bien supérieure à ce qu'elle avait à ce moment-là, et les artistes vivants, puisqu'il n'y avait pas de lieu pour la création contemporaine à l'époque. Il y avait un musée des Beaux-Arts qui a une très petite collection d'artistes contemporains, c'est clair. À l'époque, c'était encore pire. Pour le moment, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué. Et moi, je travaillais là, dans ce musée-là. Mais la personne qui l'accompagnait a fait une faillite. En fait, je ne sais pas si Michel entendra un jour ça, mais ce type était un escroc. Il a amené Michel dans le mur. C'est-à-dire que Marc Beckham a construit les 4 salles. Et ce personnage-là, je ne le nommerai pas parce que ça ne vaut vraiment pas le coup, avait donné comme projet au maire de l'époque le fait qu'il allait aménager le reste de l'espace pour en faire un lieu d'accueil au public, une librairie ouverte, enfin, etc., etc. Ça, c'était en 88. Avec la nouvelle équipe municipale arrivant et avec le nouvel adjoint à la culture, Vincent Picheral, qui m'a proposé ce travail-là. Et donc d'accompagner une année de réflexion avec le ministère, avec les deux directeurs de FRAC, Pays de Loire, c'était ADI à l'époque, et puis Catherine Elcar sur la région Bretagne, et puis un certain nombre de gens, des professeurs de l'école d'art, Michel évidemment en tant que directeur est à l'origine de cette proposition-là. Il y a eu des réunions qui sont tenues tout au long de l'année 89 pour voir ce qu'on allait faire de ces 4 salles. Et donc, il a été convenu de créer un centre d'art à Quimper à partir de ces lieux-là, Donc l'origine, s'il n'y avait pas eu les quatre salles mises en place par Marc Bécane, il n'y aurait vraisemblablement pas eu de centre d'art à Quimper, parce que ça ne faisait pas partie du projet culturel du nouveau maire Bernard Poignant. Mais bon, les salles existaient, il fallait les valoriser, il fallait en faire quelque chose d'intelligent, et cette réflexion d'une année a permis d'aboutir à ça. Moi, de mon côté, j'ai cherché avec les élus à trouver un certain nombre de gens qui étaient d'accord pour porter juridiquement ce projet-là, pour accompagner l'association. Donc, elle devait être composée d'une trentaine de personnes, je crois, qui venaient de mondes professionnels différents, l'entreprise, l'éducation, il y en a beaucoup, comme d'habitude. Et puis, des galeristes, il y en avait à l'époque à Quimper, il n'y en a plus beaucoup. Mais enfin, bon, ça renaît tout ça depuis quelque temps. Enfin, on a cherché des gens qui étaient d'accord pour accompagner ça. Et puis, mon poste a été créé. Et en fait, c'était un poste d'administrateur, tout simplement. Et on m'a dit, bah, maintenant, tu te débrouilles, on va créer un comité artistique qui accompagnera l'association et donc ton poste, puisque j'étais la seule professionnelle à l'époque dans cette structure-là. Et donc, ce conseil artistique a été constitué par Michel Bagnou, forcément, par les deux directeurs de FRAC, Catherine Elcar et Jean-François Taddeï, par Claude Mollard, qui lâchait pas bébé, et par Alain Kernec, qui était donc le graphiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a créé la charte graphique du quartier, et qui, avec un autre artiste qui officiait en Bretagne et qui est aujourd'hui internationalement connu, qui s'appelle Yann Kersalé, autour d'un verre de blanc, ils ont trouvé le nom Le Quartier. Le Quartier, c'est une déclinaison de la caserne, etc. Et voilà comment c'est parti. Donc voilà, et donc la première année, là, chacun a positionné un commissariat. Donc Pagnot avait fait une très, très, très belle exposition d'ouverture qui s'appelle La Compagnie des Objets, qui était vraiment absolument magnifique. Enfin, ça, il y a eu un monde fou tout de suite, il y a eu un engouement pour le lieu tout de suite, il y avait énormément de monde au vernissage, ça fonctionnait bien. On n'était pas complètement dans l'art contemporain, on était entre les deux, mais je crois que c'était un des objectifs aussi de la ville, c'est à la fois de monter la création vivante la plus exigeante et expérimentale, et à la fois faire le pont avec l'histoire de l'art, les années 70, etc. Et c'était pas mal comme vision. Et en parallèle à la réflexion sur la création du futur centre d'art en question, la municipalité a réfléchi effectivement à ce que pouvait être une politique culturelle, et de là, tout a été engagé, la création du théâtre de Cornouailles, où a travaillé Jean-Yves Rochemort. Les rencontres art et cinéma se sont développées, enfin. Et puis, le troisième bébé qui touchait aux arts plastiques, c'était le quartier. Donc, on était vraiment le premier bébé de la politique culturelle nouvelle. On n'avait pas le droit à l'échec, c'est clair. Est arrivé Jean-Louis Conant. Il avait, Jean-Louis, un poste double. C'est-à-dire qu'il avait un mi-temps direction artistique au quartier et un mi-temps d'enseignant chargé de la médiatisation de l'œuvre d'art à l'école des Beaux-Arts. Et c'est là où le pont s'est vraiment fait entre le quartier et l'école. Puisque, en dehors des expositions du centre, tous les ans, autour d'avril, mai, autour des vacances de Pâques, il présentait une exposition des élèves de 5e année. Et ce lien, petit à petit, s'est distendu pour ne quasiment plus exister dans les dernières années, ce qui fait que quand le quartier a été fermé, moi, ce qui m'a rendu extrêmement triste et en colère même par moments, c'est qu'en fait, la rébellion contre la fermeture n'a jamais été portée par les étudiants de l'école, à part quelques-uns. C'est quand même fou, hein, quand tu as une école au-dessus avec des enseignants qui sont là, qui t'amènent à la création vivante et qui sont en train de former des jeunes artistes, et que ces gens-là voient un lieu se fermer en disant « chic, on va récupérer les locaux ». Moi, je dois dire que j'ai très mal vécu ça, et je le vis toujours très mal. Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les profs de l'époque, qui sont encore là, quelques-uns, pas tous, hein, maintenant. Enfin, quand même, ça serait pas mal qu'ils réfléchissent à l'attitude qu'ils ont eue, même si l'école est toujours trop petite et toujours vétuste, un projet de restauration est en cours, etc. Mais ça, c'est l'Arlésienne depuis le temps, parce que quand j'étais au quartier, on parlait déjà. Quand je suis partie, hein, dans les années 2000, on parlait déjà de la restauration des locaux de l'école des Beaux-Arts. Ça n'a toujours pas commencé. Et donc, Jean-Louis Conant est resté 3 ans et est arrivé en 95, Dominique Abinsour, qui était la deuxième directrice artistique du quartier, qui est restée, je crois, jusqu'en une bonne dizaine d'années, plus que ça, même 10-15 ans. Donc, de 95, 2005, ça fait 10, jusqu'en 80, jusqu'en 2005-2007.
J'ai commencé au quartier un peu par hasard, alors que je travaillais juste en face dans le Théâtre de Cornouailles, comme administrateur, puis comme directeur adjoint, puis comme co-directeur de cette scène nationale. Et cette rencontre s'est faite par l'intermédiaire de la directrice de l'époque, qui m'avait sollicité pour faire partie du jury de recrutement d'un administrateur, pour reconstituer un conseil d'administration à un moment où le quartier avait quelques difficultés, disons, structurelles et administratives. Le problème structurel que traversait le quartier, c'était le départ, quelques temps plus tôt, de la directrice de l'époque. Il y avait des tensions entre son équipe et elle qui avaient provoqué son départ négocié d'ailleurs. Et une nouvelle directrice avait été nommée qui avait trouvé le lieu dans un état... Enfin, il fallait restructurer complètement, administrativement, reconsidérer les relations avec l'équipe en place, voire changer de projet pour le centre. Il y a eu une petite erreur, me semble-t-il, à l'époque, des élus et du conseil d'administration qui n'ont pas pris en charge les difficultés existantes entre la directrice et son équipe et qui, surtout, après le départ de la directrice, n'ont pas réagi suffisamment tôt pour doter le quartier d'un nouveau projet et d'une nouvelle direction. Et donc, dans ces cas-là, ce qui se passe, la nature ayant horreur du vide, l'équipe en place et particulièrement l'administrateur de l'époque prennent la place, sans que ce soit officiel, sans que ce soit, j'allais dire, légitime. Une nouvelle directrice est nommée sous le regard, on va dire, quasi malveillant, si ce n'est de l'équipe en place, au moins du directeur et des cadres de direction. Et donc s'ensuit des tensions, alors que la nouvelle directrice est à peine arrivée. Et donc l'adjoint de l'époque se dit, la solution, c'est de changer la donne, de changer le conseil d'administration, de rééquilibrer les choses. Et c'est à ce moment-là qu'il me propose, à moi et à quelques autres, de rentrer dans ce conseil d'administration dont j'allais devenir le président peut-être un an ou deux plus tard, après avoir accompagné, disons, la mise en place du nouveau projet et de la nouvelle directrice. Ça a été très compliqué, très très compliqué. Cet administrateur était en difficulté, on va dire, psychologique. Il était très très affaibli par tout un tas de choses qui lui étaient arrivées dans sa vie personnelle et terriblement affecté par la nomination d'une nouvelle directrice, car vous l'aurez compris, son souhait était de prendre la direction du quartier. Ce qui n'a pas été du tout le choix du conseil d'administration, ni de la ville, ni des tutelles qui composaient le conseil d'administration. Il est tombé dans un état de dépressif qui a été considéré, alors c'est toujours un peu compliqué ça, par les médecins comme un burn-out, c'est-à-dire comme un accident professionnel. Et donc, à partir du moment où ces choses ont été établies officiellement, médicalement, il devenait extrêmement difficile de négocier. Et donc, le contexte, c'est ça. C'est le départ de l'administrateur qui libère la nouvelle directrice, Karen Deton, et qui lui permet de repartir sur un projet nouveau, d'autant plus qu'on avait pu assainir les comptes, régler tous les antécédents un peu fâcheux, et elle pouvait travailler beaucoup plus sereinement avec une nouvelle administratrice que vous avez donc rencontrée, qui était Natalia.
Alors, je travaillais pour une compagnie de danse contemporaine sur Quimper depuis 5 ans. J'ai su par hasard qu'on cherchait un administrateur pour le centre d'art, car j'avais une amie qui travaillait, qui faisait un remplacement de l'administrateur qui était en place, qui était en arrêt maladie depuis un moment. Elle voulait faire un autre projet, donc elle m'a proposé de... Voilà, ça faisait 5 ans, j'avais un peu fait le tour de ma structure. Donc, et en plus, ça me rapprochait de l'art contemporain. J'ai une maîtrise d'histoire de l'art contemporain que j'ai fait à la Sorbonne, donc je me suis dit, c'est l'occasion de me rapprocher de mon premier amour, on va dire. Et c'est comme ça que je suis arrivée au quartier. Alors, c'était très, très compliqué parce qu'on est arrivé, je suis arrivée dans une structure qui était en gros conflit social, qui était liée notamment à des problèmes entre l'équipe et la directrice, et l'administrateur et la directrice. Donc, c'était vraiment un climat social extrêmement tendu. Il y avait des gros soucis d'heures supplémentaires non payées, qui avaient été payées par ailleurs à des remplaçants, donc ça crée beaucoup de tensions. Un manque évident de communication entre l'équipe et la directrice, avec qui ça se passait très mal. Et voilà, donc ils avaient, en fait, l'équipe avait géré un peu cet administrateur défaillant, et la directrice s'était un peu retirée, en fait, de cette problématique-là. Elle l'avait pas assumée, elle l'avait pas affrontée. Et donc, finalement, l'administrateur a fini par être licencié. Il était en arrêt maladie depuis presque 2 ans, je crois. Et tout ce qui était administratif était évidemment laissé à l'abandon. Donc, toute une remise à plat de tout ce qui était droit social, respect de la convention collective qui n'était pas respecté. Et l'administrateur, en fait, est rentré vraiment en conflit direct avec la directrice lors d'un arrêt maladie où il y avait le bilan comptable qui était fait. Normalement, le résultat était bon. Et il a envoyé de lui-même directement au cabinet comptable un décompte d'heures supplémentaires qui équivalait à 12 000 euros. Sans le dire à la directrice, sans le dire à l'équipe. Donc, le commissaire aux comptes et l'expert comptable ont dû acter le fait qu'il y avait ce déficit-là. Donc, ça a été vraiment un couteau dans le dos pour l'équipe et pour la directrice. Et donc, et après, il est parti en arrêt maladie et il a tenté un procès. Donc, il a été licencié et il y a eu un procès au prud'homme qu'il a gagné pour harcèlement moral et pour non-respect du droit du travail. Toutes les années où j'ai été là, donc on a dû aussi donc remettre à plat tout ce qui était dialogue social, rétablir un dialogue avec l'équipe, entre l'équipe et la directrice, redonner une place aussi à l'administrateur qui était défaillant auparavant, donc vraiment bien faire comprendre quel était mon rôle au sein de l'équipe, avec une équipe qui était très blessée de ce qui s'était passé. C'était vraiment ça l'enjeu en fait. C'était l'enjeu, c'était redonner confiance dans le projet et dans la direction. Et moi, j'ai fait en fait, j'ai servi un peu de tampon et en même temps de médiateur en fait entre l'équipe et la directrice. Alors, il se trouve que je me suis assez bien entendue avec Karen malgré tout. J'ai su comprendre ses réticences, etc. Donc, on est devenus relativement proches. Et en même temps, je comprenais tout à fait les revendications de l'équipe qui étaient dans leurs droits. Les droits n'étaient pas respectés. Et bon, moi, en tant qu'administratrice, mon rôle, c'est de défendre l'outil de travail, donc l'association, la structure, pour que ça fonctionne, rendre des comptes aux financeurs, donc être dans la règle. Et être dans la règle, ça veut dire aussi respecter les droits des salariés. Donc moi, je me suis positionnée comme ça. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à négocier avec le CA, la directrice et les salariés pour une mise à plat de leurs droits. Donc on a passé des conventions, on a payé une partie des heures supplémentaires parce qu'on ne pouvait pas tout payer. Mais on a réussi à trouver des accords, on a remis à plat les contrats, on a remis en place tout un processus aussi d'heures supplémentaires, etc. Avec un roulement et petit à petit, Karen aussi a un peu fait son mea culpa et a réussi à mieux communiquer avec l'équipe. Je crois que le CA a été renouvelé aussi à ce moment-là, donc il y a eu des nouvelles personnes qui arrivaient. Et c'est juste à ce moment-là, quand on a commencé à sortir la tête de l'eau, qu'on reprenait confiance dans le projet artistique, on a recommencé, il n'y avait pas de réunion d'équipe, par exemple. On a réussi à faire des réunions d'équipe, à partager un projet commun. Bah, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a eu l'annonce de la fermeture du lieu. Donc, on venait de très loin et ça, ça a été mortel pour nous. Enfin, c'était très compliqué.
Peut-être que je peux commencer par un autre point qui me semble important. Quelques mois avant l'échéance électorale qui devait réélire le maire ou élire un nouveau maire, nous avions beaucoup évoqué avec la municipalité de l'époque, qui était une municipalité de PS, de la question du renouvellement de la convention. Très important ça, parce que une convention lie les centres d'art, et donc le centre d'art de Quimper comme les autres, pour une durée déterminée, qui est en général de 3 ans ou 4 ans, aux financeurs publics, ceux que j'ai cités tout à l'heure, l'État, la ville, l'État, la région, le département. Et c'est très important cette convention parce que ça peut protéger de changements un peu brutaux politiques. Et donc, conscient de ça, on avait beaucoup œuvré pour obtenir le renouvellement de la convention. On, c'est la directrice, l'équipe, les cadres de direction et le conseil d'administration, et moi. Et curieusement, on ne l'a jamais obtenu, ce renouvellement de convention. Arrivent les élections, le maire sortant est battu, et arrive donc un nouveau maire, de droite cette fois, mais dont on sait qu'il est, on va dire, pas sensible du tout à la logique d'une culture subventionnée. Et donc, on sait qu'on va souffrir. Et effectivement, les choses ne vont pas traîner, puisqu'assez vite, dans ses premières interventions publiques, il déclare qu'il allait revoir la copie sur le plan des aides de la ville au secteur culturel, de manière large, pas seulement le Centre d'art contemporain.
Le maire avait écrit un livre, en fait, avant les élections, où il... En fait, il annonçait son projet politique, et dans le projet politique, il annonçait la fermeture du centre d'art. C'était écrit noir sur blanc. Donc là, on s'est un peu inquiété. En même temps, tout le monde se disait, il ne passera jamais, Jolivet, c'est pas possible. Voilà, ça a été le premier coup. Il a gagné, il a fait ce qu'il avait dit. Donc il nous a mis en difficulté. Et je pense que malgré tout, le passif du quartier vis-à-vis de ce qui se passait au niveau social, de toutes les casseroles, en fait, le déficit, tout le prud'homme... qui était quand même à hauteur de 70 000 euros et qu'on a dû provisionner chaque année. Donc ça a quand même beaucoup fragilisé en fait la structure, tout ce climat social. Le fait que Keren faisait des très très bonnes expos, mais qui était, voilà, on lui reprochait aussi son élitisme un peu parisien et d'un peu se faire la main sur le centre d'art pour bien se faire voir. Après moi, il y a des expos que j'ai adorées, Sorcières, tout ce qui était Frontières. Enfin, il y a eu vraiment des expositions magnifiques. Mais qui n'avait pas un bon rapport avec tout ce qui était réseaux locaux, partenariats, même au niveau politique. Elle était, c'est quelqu'un, je pense, qui est un peu timide et qui, voilà. Elle a des très bonnes qualités. Elle n'avait pas les qualités de direction et de politique, en fait, de réseau politique. Et donc, on lui reprochait beaucoup ça. Donc ça a porté préjudice à la structure. Le fait qu'il y ait deux centres d'art dans le département posait question. Parce qu'il y avait Brest et il y avait nous. Donc voilà, on était un peu le seul département où il y en avait deux, même si on est très éloignés, même si on ne faisait pas forcément les mêmes choses, on n'avait pas les mêmes financements. Bref.
Effectivement, dès l'année suivante, le maire et son équipe et son adjoint à la culture nous annoncent une baisse importante. Le quartier vient juste de se rétablir, enfin à peine de se rétablir financièrement, mais il a encore un peu les reins solides. Le personnel est compétent, efficace, ils sont derrière leur directrice, le projet artistique est costaud. Donc on arrive à supporter cette baisse tout en continuant à essayer de rétablir des subventionnements, notamment auprès des autres financeurs publics. La deuxième année, la municipalité nous réduit encore la toile. Là, ça devient vraiment très compliqué.
Et donc, ça a été très conflictuel, très tendu avec un élu à la culture qui était inexistant. Inexistant. C'était un pantin. Qui comprenait rien, qui voulait rien savoir, qui en même temps était mielleux et qui se répandait sur oh, c'est dramatique, on va licencier des gens, mais qui ne faisait rien et qui disait mais moi, je peux rien faire. Voilà. Enfin. Une action, enfin aucune action de leur part.
Juste une anecdote, mais qui révèle bien la chose, c'est que au cours d'une de ces réunions, l'adjoint à la culture dit au maire écoute, ce serait quand même important de voir un peu ce qui est proposé, parce qu'on peut peut-être trouver des solutions. Et là, le maire le sèche brutalement en disant si tu n'es pas d'accord avec moi, on en reparlera à l'extérieur, mais maintenant je te prierai de te taire en présence des gens qui administrent le quartier. C'est moi qui parle. Bon, là, ça ne pouvait pas être plus clair. Un médiateur est nommé par la ville, qui fait partie de l'équipe municipale, qui n'est pas l'adjoint à la culture, et qui est mis en place pour trouver une solution. Pareil, un leurre complet. La réalité, c'est qu'ils ne cherchaient pas du tout de solution. Ils cherchaient juste à gagner un peu de temps, à apaiser un peu les tensions, à éviter que la révolte ne gronde trop. Et donc, le temps passe sans qu'on obtienne quoi que ce soit. On se fait rouler dans la farine jusqu'au moment où la troisième année, ouais, je crois que c'est la troisième année, le maire m'annonce clairement qu'il n'y aurait plus du tout de subvention pour le quartier en 2015. Comme il est le seul à pouvoir en décider, et qu'il peut décider du vie et de mort d'un lieu, puisque en général, les lieux sont subventionnés majoritairement par la ville. On se dit qu'on aura vraiment du mal à s'en sortir, mais on essaye quand même, en mobilisant un peu tous azimuts, et en étant aidé, partiellement, pas totalement, par nos confrères et consoeurs du service public de la culture, et qui sont dans leurs petits souliers, qui sont un peu embarrassés, parce qu'ils ont avec le maire un rapport qui n'est pas non plus très, très chaleureux, mais ils ont leur propre projet à défendre, ils sont inquiets pour leur propre établissement ou leur propre association, et pour certains, ils voient là l'opportunité de récupérer des subsides qu'ils n'avaient pas lorsque cet argent était versé au centre d'art.
Au départ, il y a eu Tréteau Théâtre, donc Bernard et l'équipe de Tréteau Théâtre qui ont essayé de constituer un comité de soutien autour de ce qui se passait au quartier, parce qu'ils se sentaient menacés également et qu'il fallait se soutenir évidemment. Et là, il y a eu des partenaires qui se sont complètement retirés, dont Grosplan et dont la scène nationale.
Et on commence à avoir des réactions un peu poujadistes de « est-ce que c'est bien nécessaire finalement un centre d'art et la programmation ?» Et puis finalement, ça ne mobilise pas beaucoup de public. Et bon, bien sûr, on nous parle d'éducation artistique, de travail auprès des jeunes et des élèves et des étudiants. Mais bon, finalement, tout ça, est-ce que ça vaut qu'on ait un lieu comme ça qui coûte tellement d'argent en subventions publiques et qui en rapporte si peu en termes de recettes ? Donc, il reste une opposition qui devient une opposition politique, exclusivement. En gros, le maire ne peut finalement presque que se réjouir de cet état de fait. C'est-à-dire qu'il a en face de lui une résistance qui est une résistance politique. C'est ses ennemis politiques qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc, il s'en lèche les babines. Ils sont contre-fous. Au contraire, ça lui sert d'appui pour mettre en valeur sa position et mobiliser, pour le coup, autour de lui, tous les gens qui pensent comme lui, soit au niveau de son propre électorat, soit à l'intérieur de sa famille politique. Qui plus est, c'est un brutal. Enfin, c'est pas un brutal dans la vie, mais c'est un brutal dans le combat politique. Mais c'est un pragmatique. Et je me dis avec les amis du conseil d'administration à l'époque que ce côté pragmatique, on peut peut-être essayer de s'en servir pour le faire changer d'avis. Et pour ça, on établit avec la directrice et l'administratrice plusieurs plans de refonte économique, financière du projet de la directrice.
En tout cas, nous, on s'est sentis extrêmement impuissants et on a vraiment mis en place plein de stratégies parce qu'on a inventé des nouvelles hypothèses et si on mettait moins de personnel, enfin, on a fait, je crois, facilement 5 hypothèses différentes de comment le centre d'art aurait pu continuer à exister. Sauf que c'était tellement décidé qu'en plus, on a travaillé pour rien.
Je me rappelle toujours le matin quand il y a eu cette réunion qui s'est tenue, moi j'allais voir mes petits camarades, donc Natalia et l'équipe, Sandra et toute l'équipe qui était là, pour leur monter le moral. Et Jean-Yves me dit, t'inquiète pas, ça va le faire, on est presque sauvés, ce soir ça ira, t'inquiète pas. Et puis ce soir, rien du tout, je veux dire, ça a été une tristesse.
Et je pense que la décision politique a pris le pas sur la décision pragmatique qu'un maire aurait pu prendre. C'est-à-dire que l'affaire avait été tellement politisée que finalement, ça nous aura desservi quelque part.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que c'est toute une vague aussi de populisme, de maires qui se croient permis de fermer des centres d'art et des lieux d'art parce qu'ils l'ont décidé. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est vrai que face à la politique, bah, on a peu de moyens, en fait. On se sent écrasé. Et puis, en fait, objectivement, sur nos résultats, sur plein de choses, ils n'avaient rien à dire. Et donc, du coup, ils nous ont vraiment attaqués sur un plan idéologique. C'est-à-dire, on était des gauches, des élitistes. des gens qui sont des nantis. C'était ça son discours. Et il n'a jamais entendu. On fait de la démocratisation culturelle, on fait des choses auprès des écoles, auprès d'associations. Au contraire, on a de la médiation. On fait plein de choses, au contraire, pour que tout le monde y accède. Mais comme lui, il ne comprenait pas, personne ne pouvait comprendre, en fait. C'était ça, c'est la personnalisation aussi du pouvoir et le manque de perspective de se dire, moi, peut-être que ça ne m'intéresse pas en tant que maire, mais peut-être que ça ouvre des portes aux gens qui habitent dans ma ville, tout simplement. Et puis voilà, c'était un centre d'art qui existait depuis 25 ans, et d'un revers de main, on écrase tout, et voilà. Et puis, à vrai, il y avait aussi ce qui nous a fait le plus mal, en fait, c'est le manque de soutien de certaines structures culturelles. Donc là où le maire a vraiment gagné le coup, pour le coup, c'est qu'il a réussi à diviser tout le monde, en fait. Il y avait aussi l'école d'art qui était en jeu, on était dans les mêmes bâtiments. Daniel, à l'époque, l'ancienne directrice, n'était pas très claire, voire pas claire du tout, sur son positionnement vis-à-vis du centre d'art. On avait surtout l'impression qu'elle voulait récupérer les locaux pour l'école. Après, il y a eu beaucoup de public qui est venu, qui nous a soutenus. Il y a eu les artistes qui ont été très présents, qui ont été là. On a même fait des soirées où ils ont donné des multiples et qu'on a vendu pour... Et puis ici, ce qui a été dur, c'est de voir que les élèves de l'école d'art ne s'inquiétaient pas plus que ça, en fait, de la disparition d'un centre d'art, alors que pour eux, pour nous, c'était évident, c'était un outil pour eux de professionnalisation. D'ailleurs, on en recevait énormément en stage, on faisait des expos des artistes de l'école, enfin des jeunes diplômés. Enfin, il y avait tout un travail autour de ça, et pas d'implication. Et donc, c'est ça qui est le plus dur, parce que finalement, on se dit, si on a si peu de soutien de la profession... C'est qu'il y a un problème de fond, en fait. Et c'est ça qui nous a le plus traumatisés, en fait. On s'est senti vraiment qu'on ne servait à rien, que tout ce qu'on avait fait ne servait à rien. Que voilà, c'est cette espèce de pourquoi je suis là, quoi je sers, enfin, qui nous a touchés très profondément. Et puis aussi les politiques n'étaient pas, alors la région, comme toujours, nous soutenait parce qu'ils étaient de gauche, mais en même temps, on est rentrés dans des enjeux politiques. Donc la région nous disait, nous, on n'intervient pas puisque la ville ne veut pas, que c'est son projet et c'est politique. Et en même temps, on vous soutient. Et voilà, c'était toutes ces manipulations politiques. Et nous, on était juste des gens, quoi, qui voulions sauver un lieu, nos emplois aussi, et puis défendre une certaine vision de l'art. Et on avait toujours cru, parce que moi, je viens de la génération de ceux qui ont milité pour la démocratisation culturelle. Et c'est ça qui était compliqué. Et bon, ce qui a été vraiment le summum du summum, c'est quand Keren nous a annoncé qu'elle partait. Parce que Keren, voilà. Et puis moi, j'étais dans un rapport vraiment, pour le coup, beaucoup de confiance avec elle. On était devenus presque des amis. Et je sais que je l'ai su après beaucoup de gens. Et qu'elle m'a mis devant le fait accompli. C'est-à-dire, elle me dit, je m'en vais et c'est toi qui deviens directrice par intérim. Et moi, je ne pouvais pas dire, je ne voulais pas de ça. Et en même temps, je ne pouvais pas laisser mes collègues, je ne pouvais pas les laisser dans tout ça. Il fallait que je les accompagne. Et voilà. Et c'est là où ça a été super. C'est-à-dire que, malgré tout, ce qui reste de tout ça, c'est qu'on est restés extrêmement proches. On se voit tous les ans. Il y a 2 mois, ils étaient à la maison tous ensemble. On s'est fait une bouffe comme on se fait tous les ans. Au moins, une fois par an, on se retrouve tous. Et si j'ai une chose à dire, c'est vraiment les remercier de m'avoir soutenue. Parce qu'ils étaient là, en fait, ils auraient très bien pu se détourner de moi, me laisser toute seule dans cette tâche qui était énorme, qui était celle de fermer le lieu, de les licencier.
Et le conseil d'administration, que je préside toujours, se retrouve à gérer toute la fin administrative et financière et juridique de cette aventure du centre d'art. Après, je me suis beaucoup préoccupé de qui en était où après ces licenciements, puisqu'il s'agit évidemment de licenciements économiques, mais de licenciements. Et tout le monde a à peu près retrouvé du boulot, pas forcément d'ailleurs dans la culture, mais parce qu'évidemment tout ça, c'est aussi lié à cette réalité économique qui fait que les montants de subventions stagnent, diminuent, mais ça vaut pour tous les secteurs, pas seulement pour l'art contemporain, et que le vrai combat, c'est de continuer à faire en sorte de maintenir un service public de la culture.
Toutes ces fermetures de lieux, un peu les mêmes schémas de fermeture, parce que en fait, on vient des formations plutôt militantes, associatives, de l'époque Jacques Lang, où il y avait de l'argent, où tout était en train de se créer aussi, où il y avait beaucoup de personnalisation aussi dans les directions. Et en fait, ça s'est beaucoup, beaucoup professionnalisé. Et voilà, on n'a pas les mêmes attentes. Et puis les politiques, ils ne suivent plus, quoi. Et du coup, ça pose la question. On est devenu des entreprises culturelles, presque, en fait. Et du coup, la demande des tutelles, c'est souvent aller chercher des fonds ailleurs. Et je pense, malgré tout, que les structures qui s'en sortent le mieux, par expérience, parce que j'ai travaillé pour le Festival de Douarn, c'est celles qui ont des fonds propres et des subventions. Et c'est vrai qu'il y a des choses à réimaginer là-dessus, vraiment à réfléchir, parce que les ressources propres, c'est aussi la liberté. Et du coup, en n'ayant que des subventions, on se politise beaucoup et c'est ce qui nous fragilise le plus, les structures culturelles, comme les centres d'art en particulier, parce qu'il y a d'autres genres de structures culturelles qui arrivent à avoir... Mais c'est une vraie réflexion de fond, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années 80, qu'on est rentré dans d'autres logiques et qu'il va falloir y réfléchir fortement, et notamment, je pense, en termes de coopératives, de tout ce qui est économie sociale et solidaire, il y a des choses à faire. Il y a des choses à essayer de trouver, en tout cas, et c'est peut-être le schéma aussi du centre d'art qui est vieillissant, parce qu'il a été construit aussi à une autre époque, qu'il y a des choses à imaginer.
Mais Cactus, c'est autre chose. On s'est dit, bon, il n'y a plus de lieux, on n'a plus de locaux, on n'a plus rien du tout, mais on a quand même de l'énergie, on a l'envie de faire vivre et montrer le travail d'artistes vivants contemporains à Quimper. Et on a créé Cactus. Alors pourquoi Cactus? Parce que Cactus, c'est une petite plante qui pousse en milieu hostile. Donc c'était un petit pied de nez qu'on faisait au maire de l'époque. Mais c'est aussi centre d'art contemporain et avec de qualificatifs supplémentaires utiles et simples, c'est-à-dire utiles parce qu'il y en a besoin, parce qu'on a vu pendant le collectif et on a vu sur les premières expositions de Cactus que le public venait nombreux à nos expositions. Et là, on s'est dit, on n'a pas de lieu, ayons un peu plus d'imagination et faisons, montrons, recensons effectivement les artistes aujourd'hui qui ont un travail sensé, intelligent, digne d'intérêt en tout cas, et comment on fait ce travail de recensement-là. Alors, les recenser en faisant des visites d'ateliers, c'est très intéressant, mais ce n'est pas suffisant, il faut les montrer. Donc, on a monté un projet artistique qui tourne autour de trois espaces. On présente leurs œuvres dans les maisons, mais ce n'est pas incongru de présenter dans une maison, parce que d'abord, on rentre dans l'espace privé des gens qui sont des collectionneurs potentiels. Et ça fonctionne du feu de Dieu depuis maintenant 4 ans, 3 quarts et demi. On va fêter les 50 cactus l'année prochaine. Donc, on fonctionne un peu de manière... institutionnel sans institution, puisqu'on est un centre d'art nomade. Hein, et donc, on a un conseil artistique qui fait la programmation et une association à côté qui l'accompagne. On développe une proposition pédagogique parce qu'aujourd'hui, le quartier a disparu, mais il n'y a plus du tout ce travail possible entre les artistes vivants et le jeune public. Donc, on essaye effectivement d'accueillir chaque fois qu'on le peut au champ des possibles, justement, à Plogonnec, accueillir des classes pour les mettre en lien avec les artistes vivants. Et on a, depuis 5 ans maintenant, présenté le travail de 80 artistes, à peu près. Donc, ça fait 4 ans et demi, je vous dis, on va fêter les 50 cactus l'année prochaine. Et on reçoit, depuis quelques années, dès la deuxième année, on a reçu le soutien financier du département et de la région Bretagne. Bon, on est parti avec un budget très bas, hein. Je n'ose même pas vous dire d'où on est parti, tellement c'est ridicule. Mais enfin, ça ne fait rien, on a eu ce soutien-là. Et la ville, la municipalité en question qui avait fermé le quartier, a commencé, au bout de la deuxième année, troisième année, de me dire, tiens, ce serait peut-être temps que je regarde un peu ce qui se passe. Et ils nous ont amené un petit soutien, à la hauteur des autres d'ailleurs, pas... Hein. Et aujourd'hui, avec la nouvelle équipe municipale, on a engagé des réflexions de fond. Effectivement, sur l'avenir de notre travail, sur comment arriver à le conventionner avec des objectifs partagés.
Ouais, quand on parlait des fermetures de structures, je pensais à ce qu'avait dit le maire là, sur le côté élitiste, des centres d'art, etc. Et en même temps, moi, quand j'y pense et quand j'en parle là, pendant l'entretien, je me rends compte que ça peut être rapproché à d'autres fermetures d'usines, tout simplement comme Goodyear, où on a vu beaucoup de documentaires sur les fermetures d'usines, et c'est presque la fin de quelque chose, la fin d'une façon de penser la culture aussi. Et on se rend compte, par exemple, avec le Covid, on n'est plus essentiel, quoi. Et ça a été une grosse claque pour les gens de la culture. Parce que moi, j'ai grandi avec Jacques Lang, et la culture est essentielle, est un moteur et un facteur de démocratisation, de politique, d'émancipation. Et aujourd'hui, on n'est juste pas essentiel, quoi. Et ça m'a, là, en parlant, ça me fait tilt sur le fait que pour le maire, on n'était pas nécessaire, en fait. On n'était pas essentiel, déjà. Donc c'est toute une logique aussi qui s'installe, où la culture n'est plus un moteur d'émancipation et de politique. Et de, voilà, c'est plutôt... C'est plus la finance, c'est plus l'argent. Enfin, je pense qu'on est en train de changer d'époque. Et ça, je pense que les acteurs culturels doivent s'en rendre compte et être inventifs et créatifs, surtout qu'on est un vivier de gens créatifs. Enfin, voilà, on a des artistes, on a des créateurs, et peut-être que les artistes auraient à y gagner, à réfléchir aussi à leur future structure d'exposition ou autre. Mais en tout cas, je pense que c'est une réflexion qu'il faut faire entre les acteurs culturels, les partenaires culturels, les financeurs et les artistes. Je pense que c'est là peut-être où on peut trouver une nouvelle ressource pour ce que doit être un centre d'art demain, quoi.